marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Du fait de la suspension de la grève, un programme normal est diffusé dès aujourd'hui sur France Inter et Inter Variété.
12 juin 1968, les gauchistes hors la loi.
L'utilisation de matraques et de bords de fer et de pavés n'est pas admissible qu'un parti politique, dans un régime de liberté comme le nôtre, puisse utiliser des moyens violents. Et il y a une loi du 10 juillet 1936 qui prévoit la dissolution de tel groupement. Tout groupement qui s'en prend à la forme républicaine du gouvernement par la violence doit être dissous. Il faut finir avec ça. C'est l'heure de la justice maintenant et il appartient aux tribunaux de sanctionner tous ces faits de violence qu'on ne peut pas tolérer dans un pays libre comme la France.
Raymond Marcellin, nouveau ministre de l'Intérieur, donc une dizaine d'organisations gauchistes, rayé de la carte, tandis que le 18 juin, De Gaulle graciera une douzaine de condamnés de l'Algérie française, Raoul Salan en tête. Ces deux décisions lourdes de sens montrent, s'il en était besoin, que mai 68 ne s'est pas terminé avec la locution radiodiffusée qui permit au général de reprendre la main et avec la manifestation des Champs-Élysées qui vint le soutenir le 31 mai. Une fois les protocoles d'accord de Grenelle accomplis, il y a dans chaque entreprise en grève une issue à trouver pour la reprise du travail. Et certains secteurs sont toujours chauds bouillants, notamment dans l'automobile. La mort de trois militants aux abords des usines Renault et Peugeot les 10 et 11 juin manque de rallumer l'incendie. L'Assemblée nationale ayant été dissoute, il y a 487 batailles locales à mener pour les législatives convoquées le 23 juin. Le gouvernement cherche à flatter un électorat que le spectacle de la contestation a indigné ou effrayé. Dans la période qui s'ouvre, Raymond Marcellin, qui a donc été nommé ministre à la faveur d'un vaste remaniement gouvernemental, joue un rôle déterminant. Persuadé, ce en quoi il n'a pas tort, que l'agitation ne cessera pas de sitôt et qu'elle peut déboucher sur le terrorisme, il déploie une politique de répression tous azimuts largement inédite. Dans l'immédiat, il flatte les forces de police avec des primes, de nouveaux équipements. En amont, il renforce le renseignement et, en aval, il veut faire passer sévèrement la justice. Ses successeurs, Place Beauvau, ont parfois voulu effacer le souvenir de Marcellin en dissimulant, derrière le sourire ou le raffinement, le langage brut de décoffrage qu'il tenait, lui, ouvertement. Il se tient au fondement de la politique de surveillance qui s'est tant développée depuis.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Philippe Artière, bonjour.
Bonjour.
Naguère auteur avec Michel Zancarini-Fournel d'un collectif sur mai 68 qui vient d'être réédité à la Découverte en la compagnie d'Emmanuel Giry et avec beaucoup d'archivistes des Archives nationales. Vous avez été le co-organisateur d'une exposition qu'on peut toujours voir, les archives du pouvoir, parce que mai 68 a laissé un monument de papier. Raymond Marcellin lisait tous les tracts et journaux gauchistes qu'on avait pu rassembler à son usage. Et vous, ce monument de papier, vous avez tenté de le gravir par la face pouvoir.
Oui, on l'a dépouillé pendant 2 ans et demi avec Emmanuel Giry. Grâce à ce projet d'exposition, puisque 50 ans, c'est dans la loi des archives, la possibilité d'ouvrir les cartons, enfin.
Donc vous avez eu la primeur.
Donc on en a eu la primeur et les visiteurs de l'exposition, qui se tient à la fois à l'hôtel de Soubise rue des Francs-Bourgeois et à Pierrefitte, qui est le grand centre des archives nationales, eh bien en auront aussi la possibilité.
Dans les cartons, vous avez vu les archives des cabinets ?
Alors ces cartons des archives nationales, ce sont à la fois les cartons de la présidence et évidemment de ce qui constitue pour la Ve République un lieu extraordinaire, ce sont les cabinets. Ce sont les cabinets et dans le cadre du cabinet du président de Gaulle, ce sont aussi les papiers de Focard.
Focard, conseiller politique et pas seulement africain du général de Gaulle. Si vous le voulez bien, on va se mettre à la hauteur de ce qui se passait il y a 50 ans, précisément, 10-11 juin. Le secteur automobile était un secteur clé pour la reprise des activités.
C'est un secteur fondamental, d'abord parce que c'est des symboles. Hein. C'est le symbole, évidemment, de Renault Billancourt, la forteresse ouvrière. C'est là que Segui viendra tout
rendre
de suite,
compte rendre du protocole compte, des accords.
Protocole sera sifflé, mais c'est aussi là, cet autre lieu où aura lieu la mort de Gilles Totin. Hein,
alors ça, c'est le 10 juin.
Le 10 juin.
Les directions aussi, des usines ont tenté de reprendre la main et de faire reprendre le travail, quitte à faire occuper par les forces de l'ordre les usines.
Alors, ce qu'il faut dire quand même concernant Peugeot,
ça, c'est, Béliard, Sochaux.
C'est à Sochaux, c'est que c'est une des dernières usines qui rentre en grève, hein, le 20 mai. Et pour se rendre compte, on est très très loin de cette France-là, se rendre compte qu'à Sochaux, il y a plus de 26 000 travailleurs sur ce site. Donc c'est absolument considérable, c'est un bassin de travail, c'est des familles entières, des générations qui travaillent là. Et ça c'est important, c'est aussi un bastion de la CGT, et c'est pour ça que l'entrée en grève est très tardive. On mettra aussi un peu plus de temps à reprendre le travail.
Aux abords de Renault-Flins, des militants étudiants, un lycéen de 17 ans, vous citiez son nom, Gilles Totin, il se noie dans la Seine pour échapper aux gendarmes mobiles. Et puis, le lendemain, à Sochaux, aux abords de l'usine, toujours, deux morts supplémentaires.
À Sochaux, la semaine a été lourde. Deux morts, 67 blessés. Dans la métallurgie, la persistance des poches de grève s'est révélée dangereuse. Le secteur de l'automobile en particulier est demeuré sur le front social le point dur, le point névralgique. Les échauffourées de Flins avaient fait aussi une victime, Gilles Taupin, l'étudiant noyé dont les obsèques se sont déroulées à Paris.
À tous ceux qui s'interrogent sur l'origine du mouvement ouvrier, à ceux qui demandent pourquoi le drapeau rouge flotte au-dessus des usines occupées, quelle est sa signification ? Ces quelques semaines de lutte apportent une réponse. Le mouvement ouvrier, depuis son origine, s'est peu à peu gravé dans l'histoire. Si le drapeau est rouge, ce n'est pas par hasard. Il l'est du sang versé par les ouvriers et souvent jusqu'au sacrifice suprême. Pierre Bellot est un de ceux qui s'inscrivent dans cette longue, très longue liste des victimes de ce combat.
Pierre Bellot, Henri Blanchet, les deux morts de Sochaux. Ce qu'on entendait, c'est un anonyme filmé par le collectif Medvekine, animé peu de temps auparavant par Chris Marker, mais ensuite passé entre les mains des ouvriers qui tenaient les caméras. Corrigeons quand même le nom de Gilles Taupin, parce que le journaliste de l'ORTF, il dit Gilles Taupin.
Oui. Ouais. C'est important de dire le nom des morts. Hein. Ouais. Il y a certains noms qui n'ont jamais été prononcés. Hein. Il y en aura eu 7 en tout pendant les événements de 68. Mais c'est vrai que ce qui est important là avec ces morts, c'est Totin qui appartient à l'organisation marxiste-léniniste. Hein.
Union des jeunesses communistes marxiste-léniniste.
Voilà, et qui se noie. On a retrouvé dans les archives l'ensemble de l'enquête policière qu'on montre d'ailleurs.
Donc on voit les photos.
On voit les photos, on voit les conditions exactes hein, de ce drame. Et puis deux ouvriers qui sont eux. Ce ne sont pas des militants d'une organisation d'extrême gauche. Hein. Ce sont des ouvriers dont l'un est tué par balle, ce qui est extrêmement important et tout à fait traumatisant, puisque depuis 67, c'est-à-dire depuis la Guadeloupe, comme l'a montré la commission d'historiens, notamment Michel Zancarini-Fournel, il n'y avait pas eu de tir à balle sur des ouvriers.
Les blessés de Sochaux, ils sont innombrables, ils appartiennent tous au monde ouvrier et aux riverains de Sochaux. Ce ne sont pas des étudiants gauchistes qui sont allés à la rencontre des travailleurs pour relever le drapeau rouge. Comme va le dire le ministre de l'Intérieur à propos des manifestations qui sont rallumées par ces morts de Flins et de Sochaux qui dégénèrent dans la nuit du 11 au 12 juin. Elles sont d'ailleurs longuement montrées sur le petit écran, histoire de faire réagir le téléspectateur. François Leblond. François Leblond était proche collaborateur de Raymond Marcellin.
Il y a eu cet événement grave qui a été la nuit du 11 au 12. Et cette nuit d'émeute a été, d'abord, elle a été très ressentie par tout le monde. Elle a été ressentie par ceux qui étaient dans la rue. Elle a été ressentie également par les forces de l'ordre qui ont eu beaucoup de blessés. Et donc, c'est dès le lendemain qu'au Conseil des ministres, ça tombait bien. Puisque le Conseil des ministres était le mercredi, était juste le lendemain de cette nuit d'émeute.
Interdiction de toutes les manifestations sur la voie publique, dissolution des groupes gauchistes, expulsion immédiate de tous les étrangers qui se départiraient de la neutralité politique, et évacuation des bâtiments publics occupés. Le Conseil des ministres les adopte sans aucune discussion.
Sans aucune discussion. Le général de Gaulle avait repris en main le pouvoir. Et je pense que l'attitude de Marcellin était parfaitement comprise de ses collègues.
Une décision gouvernementale a prononcé, le 12 juin, la dissolution d'un certain nombre de groupements d'extrême-gauche, dont certains ont refusé de s'incliner devant cette mesure. C'est pourquoi le parquet général de la Cour de Sûreté a ouvert deux informations pour reconstitution de groupements dissous.
La nouvelle enquête vise notamment le mouvement du 22 mars de Cohn-Bendit et le parti communiste marxiste-léniniste de France de tendance trotskiste. Dans cette affaire du parti communiste marxiste-léniniste, le juge a inculpé et fait écrouer Henri Blasquez, secrétaire administratif pour la région de Marseille, du journal L'Humanité Nouvelle.
Vous avez raison, Philippe Artier, il faut toujours dire les noms, puis les dire correctement, avec l'accent qu'il faut. Comme l'ORTF est en grève, c'est la directrice de l'information, Jacqueline Baudrier, qui s'y colle elle-même pour donner les nouvelles du Conseil des ministres.
Elle recevra d'ailleurs un courrier abondant d'auditeurs qui lui diront merci pour sa fidélité. C'est des choses qu'on a aussi retrouvées aux archives nationales. Mais ce qui est intéressant dans la liste du décret d'interdiction, c'est que on voit la méconnaissance aussi du pouvoir à l'égard de ces organisations d'extrême gauche, puisque il y a trois organisations qui sont Révolte, Fédération des étudiants révolutionnaires, c'est-à-dire la FER, et le comité de liaison des étudiants révolutionnaires,
le CLER,
eh bien c'est la même organisation. Donc ils sont listés, mais en même temps c'est les mêmes personnes. Et c'est là que effectivement Marcellin dira les renseignements, il va falloir qu'on s'y mette un peu.
On va y venir à la politique de Raymond Marcellin, à qui vous donnez donc des justificatifs. Je note que les anarchistes ne sont pas interdits. Ils ont connu des interdictions à la fin du 19e siècle. Ils sont jugés inoffensifs. On les a moins vus, il est vrai, pendant les événements de mai 68.
Alors, ils sont moins vus, ils sont surtout moins organisés en organisation. Ce qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez noté dans votre commentaire, sont visés les étrangers. Et alors, les étrangers, les anarchistes espagnols, on va les tenir en résidence surveillée, parce qu'on va pas les expulser chez Franco quand même. Donc on se limite à les garder quand même sous surveillance. Les autres, on les expulse. C'est à ce moment-là que des gens comme Le Parc, etc., sont expulsés, des artistes, un certain nombre de gens.
Ici, c'était une curiosité. Universal a ressorti le live du 11 mai. Nous prenons un mois de retard, là. Léo Ferré faisait le gala traditionnel du monde libertaire. Il se trouvait que la salle de la Mutualité avait été louée et les anarchistes déchaînaient l'enthousiasme.
Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir. Et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier. Rien n'a pas sur cent, et pourtant ils existent, ils se tiennent très bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout.
de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Mais un mois après ce concert de la Mutule, petite dizaine d'organisations gauchistes sont dissoutes. Leurs dirigeants, s'ils n'ont pas été interpellés, doivent se dissimuler. Ainsi Henri Weber de la Jeunesse communiste révolutionnaire.
La plupart des responsables et des principaux dirigeants, en tous les cas, s'étaient repliés sur des positions préparées à l'avance par le secrétaire national à l'organisation de notre groupe, qui n'était autre que l'actuel producteur de documentaires, de télévision et de cinéma, Michel Rotman. Nous avions des rapports avec beaucoup d'intellectuels, d'acteurs, Piccoli par exemple, Juliette Gréco, enfin beaucoup d'autres. Bon, c'est ainsi que Daniel Benseïd et moi-même nous sommes trouvés pendant quelques semaines chez Marguerite Duras. C'est ce qu'on appelle une plongée, même superficielle et temporaire, dans la clandestinité. Au 5 rue Saint-Benoît, au cœur du quartier latin, en bas, nous étions au quatrième étage, donc, et au-dessus d'une école communale, et les écoliers, pendant la récréation, jouaient non pas aux cow-boys et aux indiens, mais aux CRS et aux manifestants. Ceux qui avaient tiré le rôle de manifestants criaient à perdre le souffle, CRS, SS, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Bon, je ne sais pas, il ne devait pas avoir 6 ans. Ceux qui avaient tiré le mauvais numéro criaient les cocos à Moscou.
Henri Weber raconte dans Rebelle Jeunesse chez Lafont la suite de sa clandestinité. Les trotskistes avaient de la ressource. Il s'est retrouvé chez Philippe Lamour dans une jolie maison de Provence. Philippe Artière, je n'ai pas signalé qu'en même temps que l'exposition que vous organisez avec Emmanuel Giry, vous publiez à l'Iconoclaste les archives du pouvoir. Philippe Artière, vous avez retrouvé beaucoup des documents qui ont été saisis à la suite des interpellations qui ont été permises par cette dissolution du 12 juin.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'une part l'intervention de la police, qui était déjà très active avant le 12 juin, et puis après, il y a les moyens de la Cour de sûreté de l'État. Donc là, c'est une mobilisation générale, avec y compris la brigade des mœurs qui est mobilisée et qui descend dans tous les appartements, chez les Krivine par exemple, pièce par pièce. On a la description de tous les tiroirs et des pratiques qui sont des pratiques à la fois de photocopie, photographie, de transcription, toute une... On pourrait dire une topographie des tracts, des livres. Hein. Évidemment, on saisit tout ce qu'il y a comme écrit, ce qu'on appelle les littératies. Au fond, il y a tout. Et dans ces documents, évidemment, il y a toujours des choses un peu exceptionnelles. Je pense à ce qui s'est passé à propos de Gessmar. Gessmar est arrêté à Orly alors qu'il va quitter le territoire pour Berlin. Mais le 27 juin, quand la police entre aux Beaux-Arts, qu'est-ce qu'elle trouve ? Dans la salle où le 22 mars se réunit, un sac qui appartient à Alain Gessmar. Il avait laissé une chemise, il le dit encore aujourd'hui, on en parlait il y a quelques semaines, il avait laissé une chemise propre. C'était pas un étudiant, Alain Gessmar, c'était un syndicaliste, maître assistant, donc il avait une chemise avec des boutons de manchette, et il nous a bien précisé qu'il n'a pas retrouvé les boutons de manchette, mais la police, elle, a retrouvé un carnet d'adresse. Alors on a, comme ça, le carnet d'adresse d'Alain Gessmar, 268, il se souvient très bien l'avoir laissé là, et à partir de là, une étude... génétique de transcription diplomatique de ce carnet où on a l'ensemble du réseau Gessmar. Gessmar, il faut le dire, c'est celui qui paiera le plus cher son passage à la clandestinité.
Le ministre de l'Intérieur, lui, se fait apporter une grande partie de ce matériel et comme il a la réputation de ne jamais quitter son bureau, surtout pas l'été, où il consulte le Gessmaromètre. Il y a une caricature du Figaro qui montre les pieds dans une cuvette qui consulte le Gessmaromètre. Le ministre de l'Intérieur en conclut qu'il faut mieux s'informer, et Henri Weber, d'une certaine manière, lui donne raison.
La maréchaussée, avant 68, s'intéressait finalement assez peu au groupuscule, considérait que c'était rien, parce que nous avions été exclus de l'Union des étudiants communistes en décembre 1965, et on était partis à quelques centaines de très jeunes gens. La moyenne d'âge était autour de 20 ans. Donc ils considéraient que ça n'avait pas grande importance.
Ce qui est grave pour un ministre de l'Intérieur, c'est de ne pas être informé. En juillet et août, on continue. C'est le moment où il y a des expulsions pendant ces périodes de juillet et août, des expulsions de personnes qui avaient des opinions tout à fait contraires à la République. On considérait que c'était la République qui était en cause, et donc il y a eu un niveau pendant cet été des expulsions, et puis il y a eu surtout, alors pendant cette période, une reprise en main des, non pas une reprise en main des services de police, qui c'était des bons services de police, mais en tout cas des méthodes à mettre en œuvre par les services de police qui soient un peu nouvelles, parce qu'on avait considéré que en mai 68, il y avait eu des faiblesses de la part des services de police qui n'étaient pas dues forcément aux hommes, mais qui étaient dues, par exemple, à des encombrements de Paris, à des choses... C'est comme ça qu'il s'est mis à utiliser les motocyclettes qu'on a après beaucoup discuté, dont les faits ont été discutés. Mais en tout cas, pourquoi les motocyclettes? Parce qu'elles pouvaient aller sur le trottoir.
François Leblond, encore le collaborateur de Raymond Marcellin, qui publie ses souvenirs chez Libri Nova. Donc, on tire les conséquences d'un certain nombre d'insuffisances, notamment en matière d'information, mais pas seulement.
Oui, on tire des conséquences. D'abord, on remercie. On remercie les CRS, on leur octroie 3 jours de congé le 29 juillet. Donc, quand ça s'est un peu calmé.
Et heureuse puis, époque où on peut donner des congés
voilà,
aux CRS.
On donne des congés aux CRS. Il ne faut jamais oublier qu'ils font partie des accords, des protocoles d'accord d'Oudinot.
Et que eux aussi
sont sur la fonction publique, qui sont parallèles au protocole d'accord de Grenelle, qu'ils obtiennent une réduction du temps de travail, ils passent de 48 heures à 46h30, ce qui n'est pas rien. Ils obtiennent une très bonne augmentation.
Ils ont des nouveaux casques, voilà, que vous montrez à l'exposition, des casques.
Et des casques et des boucliers, parce que... Et on peut avoir 2 interprétations, mais les boucliers qu'ils ont en 68, on le voit très bien sur les images de l'INA qui est partenaire de l'exposition, et sur ces images, on voit ces boucliers qui sont opaques. Et on se dit heureusement qu'ils étaient opaques, parce que s'ils n'avaient pas été opaques, ils auraient vu les étudiants et les ouvriers derrière, donc ils auraient mieux tapé dessus. Mais Marcellin va leur donner des boucliers qui leur permettront d'avancer et pas seulement de recevoir...
Un mot quand même de l'opinion de Raymond Marcellin sur le préfet de police Maurice Grimaud, qui avait mené les opérations pendant le mois de mai avec, dit-on, modération. Marcellin était enclin à penser que ce Grimaud, bon, il avait été quand même courageux, utile, qui n'avait pas dormi pendant un mois, mais bon, c'était un peu un humaniste égaré en politique.
Oui, enfin, il faut d'abord rappeler que la préfecture de police de Paris a un lourd passif, puisque c'est Maurice Papon qui a été préfet pendant la guerre d'Algérie et quasiment jusqu'à Grimaud, qu'il est, ce Papon, comme on le sait, responsable non seulement de...
D'accord, alors Maurice Grimaud ne voulait pas tomber dans ses travers.
Ah oui, il y avait quand même un très, 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 j'ai dit passif, il y a des morts, il y a Charonne, et puis il y a octobre 61 et les Algériens dans la Seine. Et ça, Grimaud a une conscience de ça. Non seulement il a une conscience historique de la police française, mais en plus, on l'a dit, il le dit lui-même dans ses mémoires, il a des gamins. Il a des gamins dans les manifs. Et donc, il a un rapport aussi à ce qui se passe dans les rues de Paris. Bon, il n'empêche que Grimaud est encore préfet de police quand Marcellin prend la tête du ministère de l'Intérieur.
Et le restera et jusqu'en 71.
Donc, jusqu'en 74.
Jusqu'en 74, oui, c'est-à-dire jusqu'au congédiement de Raymond Marcellin lui-même. Le 18 juin est une date extrêmement importante aussi. C'est symbolique pour le général de Gaulle qui rend visite annuellement au Mont-Valérien et rend hommage aux compagnons de la Libération. Eh bien, le 18 juin, il prend une mesure qui a surpris, mais qui, dans le contexte de la préparation des législatives, n'était pas sans importance.
Un communiqué de la présidence de la République de ce matin précisait, à l'occasion de la commémoration de l'appel du 18 juin, le général de Gaulle, président de la République, a gracié les 11 condamnés pour faits de subversion encore détenus. Parmi eux figurent notamment l'ex-général Salan et l'ex-colonel Argout. À 9h28, le général Salan quittait la prison de Tulle après plus de 6 ans d'internement.
Les généraux de Tulle, mais aussi bien Georges Bidault, qui lui était en exil et qui était compagnon de la Libération. Ça fait deux poids, deux mesures quand on compare aux lourdes peines qui ont été imposées à d'innombrables militants, notamment maoïstes.
Oui, deux poids, deux mesures. C'est là encore une logique extrêmement politique. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis cette déesse dans la cour de Soubise, hein, pour rappeler
la déesse du général de Gaulle.
La déesse du général de Gaulle, pour rappeler que le général de Gaulle, au petit Clamart, est l'objet d'un attentat de cette même OAS, hein, et que 6 ans plus tard, il libère ses agresseurs, des terroristes. Pour gagner quand même les élections, de même que si on regarde bien la liste, et vous avez signalé l'absence des anarchistes, il faut signaler l'absence aussi de l'organisation Occident, qui n'était absolument pas une organisation gaulliste. Hein.
Mais Marcellin, il disait qu'il fallait aussi frapper l'extrême droite.
Oui, il le fera après. Mais il laisse tranquillement Occident mener le service d'ordre pendant l'élection, les préparations des élections législatives.
Juste une énigme pour finir, Philippe Artière, en signalant de nouveau l'intérêt de votre exposition sur les deux sites des Archives nationales. De Gaulle, homme d'ordre, l'homme de Marcellin, celui qui préfère Marcellin, mais en même temps celui qui attend de Malraux qu'il lui donne une interprétation de mai 68 à hauteur des astres.
Oh, moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt Malraux. Ce Malraux.
C'est lui l'inspirateur, néanmoins.
L'inspirateur, sans doute parce qu'il y a une continuité très forte avec la résistance et que ce rapport au passé, hein, qu'entretient De Gaulle, c'est quand même pas rien, encore une fois, cette grâce du 18 juin 1968, et je crois que là, il y a quelque chose qui nous engage à aussi repenser très largement la place de la guerre d'Algérie dans notre histoire contemporaine.